Il est 6h04 à la météo aujourd'hui. Ben, c'est du soleil pour ce matin. Il va y avoir du temps, j'allais dire, un peu perturbé à la lumière de ce qu'on a connu hier. Là, il y a eu un orage assez violent hier après-midi. Donc, il y a ce risque d'orage qui persiste aussi aujourd'hui. 36 degrés au maximum. 36, vous avez bien compris. L'humidex à 43. C'est pas mal une des journées les plus chaudes que nous avons connues jusqu'à maintenant là à Montréal. Ensoleillé également pour vendredi, demain, tôt le matin en fait, et en après-midi également, il y a un risque d'orage. Et toujours ce même constat, 36 degrés, ça va perdurer pour la journée de demain aussi, l'humidex à 43. Et pour samedi, on parle de pluie intermittente 28, à peu près le même menu pour dimanche, lundi. Retour du soleil, ce serait pour mardi avec des températures plus confortables à 27 degrés. Il fait en ce moment 22 à Montréal. Jetons un œil dans les différents quotidiens. Ben, tout le monde a à peu près la même information. C'est l'information qu'on avait également, nous aussi, hier. Les bars vont devoir désormais fermer leurs portes à compter de minuit et tenir un registre de leurs clients. C'est ce que va annoncer aujourd'hui le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse. Il s'apprête aussi à imposer le port du masque dans les lieux publics, mais pas tout de suite. Ça pourrait... Moi, l'écho que j'entends de sources bien informées, en fait, c'est que on hésite à l'annoncer tout de suite. En fait, le gouvernement ne veut pas imposer des limites tout dans un bloc, là, faire en sorte de donner l'impression de confiner encore davantage les gens. Alors, on voulait étaler ça dans le temps, sauf qu'on s'est fait prendre de court par l'annonce de la mairesse Valérie Plante cette semaine. Et puis là, ben, on va l'annoncer probablement au cours des prochains jours, le port du masque obligatoire dans tous les édifices publics du Québec. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on devrait se contenter de la fermeture des bars à minuit et... aussi la tenue d'un registre par les tenanciers de bar. Comme ça se fait aussi en Colombie-Britannique, quand vous appelez pour réserver une table, par exemple, ben, vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone, alors ça devrait être à peu près la même chose dans les bars. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire des tenanciers parce qu'ils disent « notre clientèle arrive à peu près à minuit ». Souvent, on fait notre chiffre d'affaires entre minuit et 3 heures du matin. Sauf que là, il y a eu des abus et puis il y en a qui ont exagéré, qui n'ont pas... voulu se conformer aux règles. Alors, ceux qui tenaient leur bar de façon adéquate vont devoir payer pour les autres. C'est souvent le cas. Alors, Peter Sergakis, un tenancier de bar très connu qui a déjà été à la tête de l'organisation, là, la Corporation des bars, là, ben lui, il dit qu'il est en tabarnak après le ministre. Ce sont ses mots. Il dit « J'ai proposé au ministre d'attendre une semaine pour voir s'il y avait du changement de comportement chez les consommateurs et les tenanciers. Il ne voulait pas. » Alors, on a senti dès la conférence de presse de lundi dernier du ministre Dubé là, qu'il était à bout de patience. Et évidemment, on parle beaucoup de la région de Montréal, mais... il y a d'autres régions aussi où les consignes ne sont peut-être pas tout à fait respectées. C'est le cas, nous dit le journal La Presse Plus ce matin, dans certaines régions, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Outaouais, qui lancent des messages à leur population parce qu'eux aussi ont noté que les gens n'étaient pas très disciplinés. Donc souvent dans les bars, on ne va pas respecter les mesures de distanciation, on va pas non plus respecter le nombre de personnes dans les bars. Alors, on lance l'avertissement, il faut faire en sorte de respecter justement ces mesures-là. Et d'ailleurs, la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean a lancé une vidéo dans laquelle il y a une douzaine de personnalités locales qui essaient de convaincre les gens de respecter ces mesures-là en rappelant les mesures de prévention. Il y a des éclosions également qui commencent à voir le jour à certains endroits en région. Bon, pas des grosses affaires, là, mais en Mingani, entre autres, on a noté sur la Côte-Nord des cas de gens qui ont la COVID-19 et qui pourtant sont pas sortis de la région. Alors, ça veut dire que le virus est entré d'une autre façon et qui s'est propagé souvent par manque de distanciation, d'où l'importance de ces mesures-là. Et on remarque également, on en a parlé cette semaine, là, parce qu'on a eu des témoignages et des gens qui m'ont écrit me disant « ben vous devriez voir ce qui se passe dans les rues de certains villages, dans les Laurentides entre autres, parce qu'il y a beaucoup de gens des villes qui naturellement se tournent vers les Laurentides pour aller passer un peu de temps parce que les gens sont tannés d'être en ville. Or, le masque est quasiment absent dans cette région. Il suffit de se promener dans les rues de Sainte-Agathe ou encore du village de Mont-Tremblant, qui est anciennement Saint-Jovite, là, pour constater que les gens ne portent pas le masque, mis à part dans certains commerces et pas tout le temps. C'est ce que nous dit le journal La Presse Plus ce matin et ça confirme un peu ce que nous avions comme information également. Bon, à part ça, la grosse nouvelle d'hier, c'était ce fameux déficit. On savait qu'il serait énorme, le déficit budgétaire du fédéral. Vous savez d'ailleurs, en passant, qu'il n'y a pas eu de budget au fédéral. Nous autres, on a eu un budget, c'était le 12 mars dernier au Québec. Un budget qui ne tenait aucunement compte de l'épidémie de COVID-19, alors que deux jours plus tard, on fermait le Québec, le 14 mars. Alors, il y avait quand même, des données qui n'étaient pas calculées là-dedans. Mais le fédéral avait attendu compte tenu de la pandémie. Et hier, ce qu'on a présenté, c'est une mise à jour économique. Ce n'est pas un budget. Le ministre Bill Morneau a dit qu'il y aurait un budget vraisemblablement présenté probablement en septembre. Mais le chiffre magique hier, c'était 343,2 milliards de dollars en 2020. Donc, c'est le plus important déficit du Canada à vie. Il y a juste pendant la Deuxième Guerre mondiale où on a connu des déficits semblables, toutes proportions gardées, parce qu'évidemment, les chiffres étaient différents à cette époque-là. Mais il reste que c'est très, très important. Et je le dis, moi, le 0,2, parce qu'hier, j'entendais tout le monde arrondir à 343 milliards. Je comprends que le chiffre est impressionnant, mais si t'enlèves la décimale, tu laisses 200 millions de côté, c'est pas rien quand même, là. 200 millions, imaginez. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand on regarde aussi la dette fédérale, elle est passée de 31,1% du PIB, parce qu'on dépasse maintenant le milliard, à 49,1% du PIB. Alors, c'est encore acceptable selon les normes de l'OCDE, mais c'est beaucoup plus important que ce qu'on avait, bien sûr, l'année passée en 2019. Donc, cette dette-là va dépasser les 1 000 milliards, c'est-à-dire 1 060 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et on évidemment, là, on regarde les différentes mesures qui avaient été mises de l'avant par le fédéral pour expliquer cet important déficit. Juste la PCU, la prestation canadienne d'urgence, va avoir coûté 73 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. C'est les trois quarts du budget du Québec, juste pour vous donner une idée. Le budget du Québec, là, ça tourne autour de 100 milliards de dollars, un peu plus, là. Alors, 73 milliards, c'est les trois quarts du budget du Québec. Alors, c'est quand même très, très important. Une nouvelle que je trouve un peu étrange, vous savez, on a beaucoup parlé, là bien sûr, on va imposer le masque obligatoire dans les transports en commun, les autobus, métro, tout ça, puis on nous a dit les autobus étaient désinfectés, puis les wagons de métro étaient désinfectés également de façon régulière pour éviter que le coronavirus puisse se répandre. Or, dans le journal de Montréal ce matin, en page 8, on nous parle d'un chauffeur de la STM qui est un adepte des théories du complot et qui se vante sur Facebook de ne plus désinfecter son véhicule depuis qu'il a fait des recherches sur le virus. Lui a cherché sur Internet, là, sur Facebook, puis tout ça, puis il a trouvé des informations vraiment pertinentes. Puis lui, là, il dit que c'est pas plus grave qu'une grippe, dans le fond. Le coronavirus. Alors, il se présente comme un chauffeur de la STM qui est rattaché au garage Mont-Royal. Il s'appelle Christian Lachance. Il a publié le 2 juillet dernier un long statut sur sa page Facebook où il fait état de ses recherches sur ce qu'il qualifie de pseudo-pandémie qu'est la COVID-19. Il dit qu'au début de la crise, il se lavait les mains et qui se présentait au boulot à l'avance là, pour désinfecter l'autobus puis tout ça. Mais là, il a compris avec le temps que c'était pas plus grave qu'une grippe. Et puis là, ben lui, il désinfecte plus. Puis là, il dit qu'il va porter le masque là, parce que ça va être obligé. Là. Mais lui, c'est terminé ces histoires-là. Alors, c'est quel comportement, mais totalement d'une part irrespectueux, mais aussi irresponsable d'un chauffeur de la STM. Alors, du côté de la direction de la Société de transport de Montréal, on dit qu'il y aura un suivi qui sera fait auprès de ce chauffeur. La porte-parole dit que tous les autobus sont lavés quotidiennement par les équipes d'entretien et que les employés doivent suivre des recommandations de la santé. Et depuis ce temps-là, M. Lachance, comme par miracle, a décidé d'enlever sa publication Facebook. Je ne sais pas, il a peut-être fait d'autres recherches scientifiques sur Facebook puis sur Google. Évidemment, tout le monde, les plus grands scientifiques de la planète ont ces sources-là d'informations, bien sûr. On va en parler beaucoup de ça. En fait, aujourd'hui, on va en parler dans l'émission un peu plus tard, dans le tour de table. Mais à compter de l'automne, les policiers de Montréal vont devoir baser leurs interpellations sur des faits observables. Ils pourront plus arriver, se promener dans la rue, puis dire « Ah tiens, lui, il a l'air louche, puis... juste parce que le visage lui revient pas, pouf, on l'arrête, puis on le contrôle. Alors, tout ça, évidemment, pour essayer de contrer le racisme systémique dont la police de Montréal, auquel la police de Montréal se livre, c'est reconnu, là, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est reconnu, et même les dirigeants, le directeur du SPVM, Sylvain Caron, qui annonçait hier cette nouvelle procédure, le disait lui-même qu'il faut briser cette culture de racisme à la police. Donc, la nouvelle politique sur les interpellations policières qui a été dévoilée hier ne va pas assez loin au goût de certains. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on modifie l'espèce de fiche que les policiers doivent remplir quand ils arrêtent quelqu'un, quand ils font une interpellation. Alors, auparavant, on n'était pas tenu de dire aux personnes à qui on demandait de décliner leur identité les motifs de l'interpellation. Or, désormais, ce sera obligatoire de le faire. Bon, certains disent, OK, c'est bien, là, c'est un pas en avant, mais ça ne touchera pas, en fait, les interpellations par automobile, parce que ça relève du Code de la sécurité routière. C'est des lois provinciales, puis on dit on n'a pas de pouvoir là-dessus. Alors, c'est un des grands pans de cette nouvelle procédure qui est très, très critiquée en ce moment par différents groupes, où on dit, ben là, écoutez, c'est le trois quarts des interpellations qui se fait au volant d'une voiture. Alors, pourquoi est-ce qu'on laisse ça de côté? Ça changera pas grand-chose. Alors, c'est un pas en avant, mais qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Et il y a plein d'autres choses intéressantes dans les différents quotidiens. Entre autres, on parle beaucoup, bien sûr, encore de la COVID-19, mais il y a une éclosion en ce moment dans un camp de jour de Granby qui va être fermé, alors que deux nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés chez des animateurs qui travaillent sur le site de l'école secondaire de la Haute-Ville. C'est un camp de jour de Granby. Ça porte à 3 le nombre de cas depuis lundi au même endroit. Alors, on a décidé de fermer le site temporairement jeudi et vendredi pour essayer de limiter, si on veut, la transmission. 11 animateurs ont subi un test de dépistage, et parmi ceux-ci, ben, il y a 3 tests qui s'avèrent positifs. Alors, donc, on a décidé de prendre davantage de précautions. Et on a beaucoup parlé de la fermeture. Vous savez que les provinces maritimes font des efforts importants pour essayer de demeurer le moins touché possible par la COVID-19. Et ça inclut la fermeture des j'allais dire frontières, mais il n'y a pas vraiment de frontières, là, des limites territoriales aux autres provinces. Si vous allez, par exemple, aux îles de la Madeleine, vous êtes obligé de passer à travers le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard si vous y allez en voiture pour vous rendre à Souris, île du Prince-Édouard, et prendre le traversier qui vous amène vers les îles de la Madeleine. Or, vous ne pouvez pas arrêter pour aller au restaurant, pour, dormir dans un hôtel ou quoi que ce soit. Vous devez faire le trajet d'un coup. Vous pouvez juste arrêter pour mettre de l'essence. Or, il y a une mère de 3 pistoles qui, elle, trouve que ces règles-là sont très strictes parce que elle a la garde de son enfant dont le père se trouve au Nouveau-Brunswick. Et faute de documents notariés qui attestent de la garde partagée, elle ne peut pas se rendre voir son enfant là-bas. Alors, elle trouve que ces règles-là sont très, très sévères, trop sévères, et il n'y a pas assez de souplesse. Donc, elle demande à ce que ces règles soient levées. Et à part ça, ben, dans le Journal de Montréal, on parle aussi de cette histoire qui entache encore une fois le travail de Justin Trudeau, qui a admis hier qu'il ne s'est pas retiré des discussions qui ont mené à l'octroi d'un contrat de près de 20 millions de dollars à un organisme de bienfaisance qui est proche de sa famille. Il s'agit de l'organisme UNI, ou We Charity en anglais, qui a été choisi par le gouvernement Trudeau pour administrer un programme fédéral de 900 millions de dollars pour les jeunes. Or, cet organisme-là est proche de Justin Trudeau. La recommandation d'utiliser We Charity ou UNI pour offrir des opportunités aux jeunes a été faite par les services publics de mon cabinet qui a ratifié cette décision, a dit Justin Trudeau en conférence de presse. Et quand on lui a demandé s'il s'était retiré pour ne pas justement être... pour influencer la décision, si on veut, il a dit non, je suis resté là, il n'y a pas de problème. Alors, c'est la troisième fois que Justin Trudeau fait l'objet d'une enquête du commissariat au conflit d'intérêts et à l'éthique. Alors, à un moment donné, là, il va falloir que quelqu'un s'installe puis dise il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas, mais il semble que dans l'entourage de Justin Trudeau, on a d'autres chats à fouetter que de se préoccuper d'éthique. Bon, à part ça, ben ça c'est intéressant, le Bureau des enquêtes indépendantes, vous savez, le fameux BEI qu'on a mis sur pied en 2016 pour parce qu'on trouvait que des corps policiers qui enquêtent sur d'autres corps policiers, on trouvait ça un peu bizarre. Alors, on a créé un Bureau des enquêtes indépendantes qui est chargé maintenant de faire des enquêtes quand des policiers sont impliqués dans des événements, dans l'exercice de leurs fonctions. Or, on a changé de patron récemment. Madame Giauque a cédé sa place à Maître Pierre Goulet, qui est un ancien procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales. Et lui aimerait, que toutes les enquêtes internes de tous les corps policiers soient réalisées par le BEI. Il voudrait aussi embaucher davantage d'enquêteurs autochtones, parce que souvent, il y a des policiers autochtones qui peuvent être mêlés aussi à des histoires, entre autres les peacekeepers, tout ça. Et ils voudraient maintenir la durée des enquêtes à un niveau plus acceptable. C'est vrai que c'est long, les enquêtes du BEI, mais faut aussi comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de policiers jusqu'à maintenant qui ont été trouvés coupables. Ça avait suscité, accusés, ça avait suscité certaines critiques. Depuis la mise sur pied du BEI, c'était en 2016, ces enquêteurs ont effectué 172 enquêtes indépendantes, lit-on dans la presse plus. 117 ont été achevées et fermées. Une trentaine font toujours l'objet d'une enquête et 20 sont sur le bureau du procureur jusqu'à maintenant. Le DPCP n'a accusé aucun policier qui a fait l'objet d'une enquête indépendante. Le BEI a aussi traité cependant 133 dossiers d'allégations qui ont mené à des accusations contre 6 policiers. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a été trouvé coupable sur 305 démarches indépendantes, si on veut, mais il y a des enquêtes sur 6 policiers. Alors, M. Goulet, lui, dit, ben le fait qu'on a 6 accusations à ce jour en matière d'allégations, ça démontre qu'on n'a pas de parti pris, mais certains trouvent que c'est quand même long faire des enquêtes au BEI, que ça mène pas à d'accusations.